Bonsoir, celui de la presse de ce soir propose trois thèmes à savoir: adoption au Parlement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle aura pour compétence notamment le règlement des contentieux électoraux. Ensuite, dans une déclaration faite le week-end dernier sur la marche du pays, l'Union pour la Nation plateforme de l'opposition affirme que la République démocratique du Congo va mal aujourd'hui, plus qu'il y a 5 ans et pire encore qu'il y a 15 ans. Enfin, suspension de la grève des médecins du secteur public. Le syndicat national des médecins a décidé de la reprise effective des services. Participe à ce débat trois confrères journalistes. Il s'agit de Félix Cabuz, le directeur de publication du journal La Référence Plus. C'est un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Félix Cabuz.
Bonsoir à tous.
Benoît Cambéré, le rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région de Grand Lac. C'est un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bonsoir Julie.
Ali Boukassa est le journaliste à la radio Tutanté. C'est une radio qui émet depuis la ville de Monéditou au Kassai oriental. Bonsoir Ali Boukassa.
Oui, ok, bonsoir, bonsoir Ali Boukassa de Radio Kassai.
Comment la presse chinoise a traité ces différents thèmes? Écoutons cette revue de presse que nous présente Samuel Kakak.
Bonsoir. Plusieurs sujets ont été diversement abordés par les journaux parus cette semaine à Kinshasa. Commençons par la prospérité qui rapporte que faisant un état de la nation, Clément Kankou, coordinateur national de l'Union pour la Nation, estime que le Congo se porte mal qu'il y a 5 ans et beaucoup plus mal qu'il y a 15 ans. Le phare qui a consacré sa principale manchette à la situation sécuritaire dans le Nord Kivu revêt que l'idée d'une nouvelle guerre plane dans tous les esprits dans la province du Nord Kivu. Pour ce journal, les populations de l'Est de la RDC doutent de plus en plus de la participation du CNDP aux élections de 2011. Le FA estime que le CNDP menace les prochaines élections parce qu'il ne se sent plus lié par les accords passés avec le gouvernement de Kinshasa au début de l'année 2009. Un processus électoral du reste en péril par la force de l'Alliance pour la majorité présidentielle qui multiplie des astuces pour en avoir à tout prix le contrôle, croit savoir le potentiel. En effet, pour ce journal, après avoir piégé ses alliés en leur accordant juste un siège sur les quatre qui reviennent à la majorité, la MPC résolue à bloquer la CENI pour laquelle l'opposition a déjà déposé la liste de ses trois représentants. Du reste, si le RCD décide de ne pas baisser les bras, l'opposition sera obligée de revoir sa copie en considérant le groupe parlementaire comme structure de désignation des membres de la CENI provient l'avenir. Voilà, c'est tout pour cette revue de presse. Au revoir.
Merci Samuel Kassak. Un petit commentaire par rapport à la revue de presse que nous venons d'écouter. Félix Cabuzzi, vous êtes directeur de publication du journal La Référence Plus, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Comment vous commentez le travail de la presse de cette semaine?
Je crois qu'il est toujours difficile de faire une revue de presse hein, lorsque vous avez en face une dizaine, une vingtaine d'organes de presse et plusieurs sujets qui se bousculent. En plus de ce que notre confrère a relevé tout à l'heure, je crois qu'il y a un sujet important, c'est je crois le 13e anniversaire du MLC.
Le deuxième
anniversaire du MLC, voilà, et au cours duquel le secrétaire du MLC a fait un discours bilan aussi sur son parti, mais également sur l'état de la nation. Je crois que c'est un élément qui n'apparaît pas, mais pour le reste, je crois que les éléments essentiels de la semaine ont été largement exploités.
Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, c'est un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué à l'est de la République démocratique du Congo. Vous, comment vous commentez le travail de la presse de cette semaine?
Bah, écoutez, Félix l'a dit, on ne peut pas, ce n'est pas possible en si peu de temps et avec le nombre de titres qu'il y a à Kinshasa, n'est-ce pas, de ramasser tout. Mais je pourrais tout simplement ajouter à ce qui a été dit et ajouté par Félix l'annonce du retour de Thème Tshisekedi en début de mois prochain. Et comme vous le savez, le leader de l'UDPS s'est déjà annoncé comme candidat à la présidence et c'est quand même un fait important qu'il faille également qu'on épingle.
Ali Boukassa, vous êtes journaliste à la radio Tupinté, c'est une radio qui émet depuis la ville de Monédite au Kassai oriental. Quelle est l'actualité qui était à la une dans la province du Kassai oriental cette semaine?
Oui, cette semaine, pratiquement d'abord à Monédite et surtout, il y a Monédite où ville sans pharmacie, c'était avant midi hier et après-midi avant-hier. On a trouvé toutes les pharmacies pratiquement fermées et on se demandait pourquoi. La raison, c'était que les propriétaires des pharmacies parlent de la superposition des taxes. Ils payent une même taxe, selon eux, deux fois à la santé et à l'environnement. À la santé, ils parlent de frais rémunérateurs annuels et à l'environnement, taxe rémunératoire annuelle. C'est un peu ce qui a pratiquement focalisé l'information ici chez nous. Évidemment, c'est ça par rapport aussi à l'actualité, c'est qu'en fin d'octobre dernier, il y a eu un autre parti politique qui a son siège social ici à Monédite, qui a fait sa sortie officielle, c'est l'Alliance des démocrates unis.
Merci, nous abordons notre premier thème de ce soir, adoption au Parlement de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle aura pour compétence notamment le règlement des contentieux électoraux. Le Sénat et l'Assemblée nationale viennent d'adopter la proposition de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les deux chambres ont donc approuvé le rapport de la commission mixte Assemblée nationale-Sénat. Pour le président de la commission politique, administrative et judiciaire de la haute chambre, ce texte de loi répond au vœu du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif. Plus de détails avec Julien Niamoni.
C'est pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir législatif et exécutif que cette loi vient d'être adoptée par les deux chambres. L'objectif est de répondre aux exigences de la Constitution du 18 février 2006, ont déclaré aussi bien le président de la commission PAJ, Toussaint Ekombe du Sénat, que son collègue de l'Assemblée nationale, le député Kambala. Si cette loi est promulguée dans sa forme, elle connaît des recours en interprétation de la Constitution et va trancher de conflits de compétences entre le gouvernement et le Parlement, mais aussi entre l'État et les provinces, ainsi qu'entre les ordres judiciaires. À propos de la compétence pénale, la Cour constitutionnelle est la juridiction pénale du président de la République et le Premier ministre, notamment en ce qui concerne les infraction politique de haute trahison. Il s'agit ici, selon la loi, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi qu'au délit d'initié. Mais le texte de loi est muet en ce qui concerne les infractions politiques commises par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.
Benoît Caméré, la loi sur la Cour constitutionnelle, une des trois lois qui sont attendues pour parfaire la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Comment vous avez accueilli l'adoption de cette loi?
Finalement, la loi a été adoptée parce que cette loi est attendue depuis assez longtemps quand même. La Cour suprême maintenant faisait office de Cour constitutionnelle. Elle connaissait tous les problèmes pratiquement ces derniers temps, l'interprétation de la Constitution et tout le reste. Elle exerçait toutes les compétences de la Cour constitutionnelle. En fait, on devait déjà avoir cette Cour constitutionnelle dès le début de la mandature. Malheureusement, mieux vaut tard que jamais, au moins elle est là. Et quand on sait que la Cour constitutionnelle va connaître les règlements des contentieux électoraux, vous voyez que c'est un peu dans la ligne des choses. Maintenant que les choses sont en train de se préciser et que les élections vont avoir lieu l'année prochaine, nous l'espérons, on va toucher du bois, n'est-ce pas, et que cette loi a été adoptée. On attend maintenant la promulgation par le chef de l'État. On espère qu'elle ne sera pas récalée et qu'elle sera promulguée pour le bien et de l'indépendance de la justice, parce que la nomination des membres de cette Cour constitutionnelle devra suivre aussi des modalités qui ne sont pas les mêmes que les nominations des autres membres des autres cours.
Justement, nous allons parler de ça. Félix Cabuzzi, l'article 2 de cette loi stipule que cette cour sera composée de 9 membres, dont 3 seront désignés par le chef de l'État, 3 par le Parlement réuni en congrès et 3 autres par les conseils supérieurs de la magistrature. Et ce mode de désignation ne va pas susciter des interrogations quant à l'indépendance de cette juridiction, parce que les personnes qui seront désignées pourraient se sentir redevable vis-à-vis des institutions ou des personnalités qui les ont désignées.
Bon, je pense que c'est à peu près de la même manière que les membres de cette institution sont également désignés dans d'autres pays, soit c'est le chef de l'État ou les deux chambres. Je crois que on n'a pas du tout innové, on n'a pas du tout inventé. C'est apparemment, d'après ce que cela me paraît, conforme à ce qui se fait ailleurs. Maintenant, il appartient à ces personnes-là de faire preuve de l'indépendance, n'est-ce pas? Et puis le fait qu'ils vont provenir de trois, ils seront désignés par trois institutions différentes, à mon avis, donne une marge de garantie quand même, puisque si tous les neuf l'étaient par exemple par le chef de l'État, évidemment là ce serait encore pire. Mais je pense qu'au-delà de tout cela, c'est l'aspect retard, hein, comme Benoît Cambéry l'a réalisé. On a mis beaucoup de temps vraiment pour que finalement on adopte cette loi. Et même lorsqu'on l'a adoptée, cela ne veut pas dire qu'elle est déjà fonctionnelle. Vous voyez ce qui se fait avec la CENI. La loi sur la CENI est adoptée et jusqu'aujourd'hui, on continue d'attendre. Donc je crois qu'il va falloir qu'on fasse vite. Parce que on peut mettre dans le passif de la Cour suprême de justice qui faisait office de la Cour constitutionnelle, et la Cour suprême de justice exerçait les compétences du Conseil d'État, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Et ici, je voudrais seulement relever les différents cas de violation de la Constitution sur lesquels la Cour suprême de justice n'a pas pu se prononcer. Le cas le plus grave, c'est celui de l'élection des nouvelles provinces. Vous savez que la Constitution l'a fixé pour le mois de mai, et tout le monde peut se rappeler l'agitation que tout cela a créé au mois de mai. Jusqu'aujourd'hui, la Cour ne se prononce pas. Donc, il y a déjà un cas flagrant de violation de la Constitution sur lequel, à mon avis, la nouvelle Cour devrait se pencher. Il va falloir qu'il y ait des responsables qui soient sanctionnés par rapport à cette violation.
Ali Boukassa, lorsque on voit les compétences de cette juridiction, on parle notamment du contrôle de la constitutionnalité, l'interprétation de la Constitution, le conflit de compétences d'attribution, la compétence pénale, on parle également de la déclaration du patrimoine. Ça, c'est des compétences qui nécessitent certaines qualités de la part des personnalités qui doivent composer cette cour. Et le professeur Jacques Joly, qui est sénateur et il est constitutionnaliste aussi, lui parle des gens plus audacieux, des personnes plus responsables, des personnes qui pourront mieux garantir la régularité des élections futures, qui pourront mieux protéger les libertés, les compétences du gouvernement central et des gouvernements provinciaux. Vous, comment vous réagissez par rapport au profil des personnes qui doivent composer cette cour?
Voilà, Dimathée, là, il faut d'abord dire que l'on doit mettre la main sur les oiseaux rares. Ils ne sont pas rares ici en République démocratique du Congo. Il suffit seulement de mettre la main dessus pour que cette cour constitutionnelle qu'on a accueillie et qu'on accueille de tous nos voeux, parce que comme vous l'a si bien dit Cambéré, c'est une arrivée qui a beaucoup d'enjeux. Celui qui est revenu là pour renforcer les cours en disant qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de dossiers qui attendent la cour constitutionnelle. Il faudra que les personnalités commises à la nomination de ses membres soit face pratiquement de l'efficience, face du bon choix pour que l'on ne regrette pas du travail qu'aura nous réservé la Cour constitutionnelle. Et là, il faut souligner un truc, c'est par rapport au temps que l'on mettra pour la nomination, et c'est là la crainte de beaucoup de Congolais aujourd'hui, parce que l'on se rappellera que beaucoup de là, d'autres sont encore dans les tiroirs, et l'on ne sait pas quand elles seront promulguées et mises en exécution. Et autre chose, c'est pratiquement apprécier la fertilité, la fécondité de notre Parlement de la Troisième République, qui a su mieux vaut tard que jamais, il n'est jamais tard quand il faut agir pour une bonne cause, ce que va nous produire enfin cette loi qui va devoir pratiquement sortir la République démocratique du Congo dans ce flou de l'inconstitutionnalité de certaines activités comme de certaines institutions.
Oui, Benoît Cabéré, cette cour est la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur et à la probité, ainsi que des délits d'initiés. Et pour le professeur Ngonankoy, qui est aussi constitutionnaliste, il affirme que la meilleure garantie pour tout juge, c'est son indépendance personnelle, sa psychologie personnelle vis-à-vis des autorités. Il dit que même si vous êtes nommé par les autorités, vous n'êtes pas tenu de faire leur volonté, mais plutôt vous devez appliquer la volonté de la Constitution. Et vous pensez que de telles personnes, nous pourrons facilement les avoir dans ces pays?
Peut-être pas facilement, mais nous pouvons les avoir. On a des Congolais valeureux qui ont, même par le passé, prouvé qu'ils peuvent être indépendants d'esprit, n'est-ce pas? Alors, c'est des gens, il suffit de les chercher et de bien les chercher. On peut en trouver dans ce pays. Surtout que le rôle qu'ils ont à jouer, n'est-ce pas, sont tout à fait périlleux, comme diraient certains, parce que connaître des infractions de haute trahison pour le chef de l'État ou d'outrage au Parlement, on a déjà entendu ici chez nous, n'est-ce pas, quand le Parlement et l'institution Parlement et l'institution gouvernement par le Premier ministre ne s'entendaient pas, on a entendu des noms d'oiseaux, n'est-ce pas, entre les politiques congolais. Ce serait une bonne chose qu'ils soient des grandes personnalités avec une grande probité morale.
Et par rapport à l'indépendance de ces personnalités?
Mais bien sûr, en principe, ce n'est pas parce que j'ai été nommé ou proposé par tel que je lui dois allégeance nécessairement, non. Il y a des grands messieurs dans ce pays qui peuvent relever le défi et être à la hauteur de la tâche.
Oui, Félix Kabouzi, vous pensez qu'avec la Cour constitutionnelle, les contentieux électoraux ne vont plus susciter beaucoup de polémiques comme c'était le cas en 2006, parce que nous avons maintenant une Cour constitutionnelle qui aura comme tâche notamment le règlement des contentieux électoraux.
En tout cas, en Afrique, il n'y a presque pas d'élections qui ne se soient terminées par des contentieux. Donc, il faudra certainement s'attendre aussi qu'en 2011, nous en aurons. Et peut-être il va falloir que la Cour constitutionnelle aborde les choses différemment, parce qu'on a beaucoup reproché à la Cour suprême jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, quand vous faites la ronde de l'Assemblée nationale, il y a déjà, par ironie, qui désigne certains députés par les députés de la Cour suprême. Vous voyez, donc, c'est que quelque part, des gens pensent qu'il y a un certain nombre de députés qui avaient été soit mal élus ou qui l'ont été du fait de la Cour suprême. Donc je pense qu'avec la Cour constitutionnelle, ils vont peut-être chercher à être beaucoup plus objectifs, beaucoup plus rigoureux dans le traitement de ce genre de contentieux, mais le contentieux, il y en aura parce que en Afrique, les gens s'organisent toujours pour se faire frauder, pour se faire tricher. Ceux qui sont au pouvoir veulent absolument s'y accrocher. Donc, il faut s'attendre effectivement qu'il y ait des contentieux. Mais ces contentieux-là, évidemment, ne viennent pas uniquement des gens qui sont au pouvoir, ça peut venir aussi des gens qui sont dans l'opposition. Donc, il va falloir vraiment que ceux qui seront désignés pour présider à cette cour prennent ces dossiers-là avec beaucoup de sérieux, puisque ce sont des choses qui, parfois, peuvent basculer le pays dans l'anarchie et dans la violence.
Ali Boukassa, l'indépendance de ces personnes est aussi fonction de la manière dont elles seront entretenues. Qu'est-ce que vous proposez pour que ces personnes soient entretenues de manière à les mettre à l'abri des besoins?
Bien, il faut leur rappeler ce qui les attend, il faut leur rappeler que le Congo de demain, l'avenir de ce Congo est entre leurs mains, parce que il faut souligner que l'arbitrage des grands conflits, par exemple électoraux, quand on sait que ça oppose tel camp à tel autre et tel camp est chapeauté par celui qui m'a placé à X poste, il faut s'attendre vraiment à cette dépendance d'esprit psychologique ou autre, mais ils doivent comprendre, pour me résumer, que le Congo a besoin de travailler pour ce Congo, c'est travailler pour soi-même et nous tous, partout où on est, nous sommes partis de ce Congo.
Merci, nous passons à notre deuxième thème de ce soir. Dans une déclaration faite le week-end dernier sur la marche du pays, l'Union pour la Nation, plateforme de l'opposition, affirme que la République démocratique du Congo va mal aujourd'hui plus qu'il y a 5 ans et pire encore qu'il y a 15 ans. Cette plateforme de l'opposition politique a évalué samedi dernier à Kinshasa la marche du pays pendant ces 4 dernières années. L'Union pour la Nation conclut que la situation est chaotique dans tout le domaine. Sur le plan social, par exemple, l'Union pour la Nation qualifie d'insignifiant le salaire donné aux fonctionnaires de l'État. Cette évaluation est contenue dans un document de 25 pages, considéré comme un bulletin d'information à publier chaque mois. Le Makan Kouboukassa, coordonnateur de l'Union pour la Nation, répond au micro de Donald Adimba.
Nous voulons dire que tous les secteurs de la vie nationale sont affectés par la crise. Nous voulons rappeler à ce gouvernement pour avoir mis un jet d'eau, pour avoir mis des artifices sur le boulevard du 31, cela ne va pas résoudre le problème de la population. Comment une maman qui n'a pas d'eau depuis 6 ans voit qu'on est en train de faire tourner de l'eau sur le boulevard du 31, même sur le fait psychologique, je crois que le gouvernement devrait réfléchir avant de faire ce genre de choses. Que ce soit des infrastructures, que ce soit de l'économie. La population est soumise à une augmentation vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui vont certainement avoir des répercussions sur d'autres secteurs tels que le transport. La situation des activistes des droits de l'homme, vous avez suivi, ce n'est pas nous qui le disons. Les faits sont là, Tchébé a été tué, Armand Tounoul a été tué, Bazan, on ne retrouve pas son corps. Nous avons proposé des choses très simples. Que l'État s'engage dans la dynamique de la bonne gouvernance. Que l'État s'engage dans la lutte contre l'impunité. C'est simple, il faut commencer à punir.
Pour sa part, le secrétaire exécutif adjoint de la majorité présidentielle précise que l'opposition congolaise, dans cette évaluation, n'a fait que son travail. Mais Koyagia Lombasete Gerengo ajoute que ce rapport exagère quand même lorsqu'il dit que le pays va mal qu'il y a 5 ans ou 15 ans. Il reconnaît que les attentes de la population n'ont pas encore été toutes satisfaites, mais rappelle tout de même que nombreuses réalisations ont été faites pendant ces 4 dernières années. Félix Kabouzi, la RDC va mal, c'est l'évaluation faite par l'Union pour la Nation. Comment vous, vous analysez cette évaluation de l'Union pour la Nation?
Bon, je pense qu'il va falloir qu'un jour que les politiques congolais nous proposent une étude comparative. Qu'on essaie de recenser, si vous voulez, les statistiques, les réalités que vivent les Congolais, secteur par secteur, année par année, et qu'on fasse vraiment une comparaison qui mettrait tout le monde d'accord. Je pense sincèrement que lorsque le secrétaire exécutif de l'AMP dit que l'évaluation est exagérée, moi je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à sortir leurs propres chiffres, leurs propres statistiques, pour que nous constations que ce que l'opposition dit n'est pas vrai. Alors, venir avec un discours de propagande, contester des choses qui sont limpides, qui sont vécues par tout le monde, moi ça m'étonne cette manière-là de faire les choses.
Mais lorsqu'il dit qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se réaliser, il n'a pas non plus tort.
Je crois qu'il a parlé de globalement. Il a parlé de globalement. Globalement, ça signifie qu'on peut avoir quelques îlots, hein, de quelque chose qui marche. Mais je crois que de manière générale, et les statistiques que le gouvernement lui-même nous propose montrent qu'effectivement, beaucoup de choses ne marchent pas. Dernièrement, par exemple, le vice-premier ministre, Nzala Mobutu, a révélé des chiffres que tout le monde connaît, en disant qu'il y a plus de 85% de chômeurs dans ce pays. Alors, est-ce que vraiment un pays peut s'estimer, un gouvernement peut s'estimer que les choses marchent lorsque plus de 85% de Congolais sont au chômage? Voyez le résultat d'Obama, c'est justement parce que 10% seulement d'Américains sont dans le chômage, mais il a été sanctionné aux États-Unis d'Amérique. Donc, on ne peut pas, ne serait que sur ce seul indice-là. On peut limiter les indices. La pauvreté, par exemple, sincèrement, quel fonctionnaire peut aujourd'hui estimer gagner mieux sa vie qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans? Du reste, hier, par exemple, le CNID a publié un rapport sur le degré de pauvreté à travers le monde, et notre pays est classé à la 168e place, donc l'avant-dernière place. Les trois derniers pays, c'est la Zambie, la RDC et le Zimbabwe. Et le rapport montre que l'espérance de vie même des Congolais ces 20 dernières années a beaucoup chuté. Et on a régressé à tous les niveaux. On peut prendre le cas, par exemple, de l'enseignement. Il y a quelques années, des étudiants étaient boursiers, des étudiants étaient logés, nourris par le gouvernement. Aujourd'hui, les étudiants sont devenus, en quelque sorte, un bien, hein, qui enrichissent finalement même, qui enrichissent même le gouvernement, puisqu'ils doivent par eux-mêmes payer le minerval, payer les frais, si vous voulez, pour les professeurs, payer tout jusqu'au dernier encre.
question. Je crois que quelque part, le gouvernement devait vraiment se sentir honteux, et s'il a des choses à contester, l'ANP en général, je voudrais dire, qui nous propose une étude comparative qui mettrait tout le monde d'accord, et à ce moment-là, nous comprendrons bien ce qu'ils ont pu faire durant le cadre de l'Iran.
Oui, de mon camarade, Félix Tabouzi propose que le gouvernement présente une étude comparative, mais à votre avis, pourquoi l'opposition n'a pas relevé quand même les quelques réalisations qui sont en train d'être accomplies par-ci, par-là?
Ben, je ne sais pas, vous n'avez peut-être pas bien suivi, qu'il manque un coup, c'est de bonne guerre à relever qu'on a inauguré des fontaines à Kinshasa. On a inauguré certes le boulevard du 30 juin, mais le boulevard du 30 juin, qu'est-ce qu'il représente pour le commun des Kinois? Quand le boulevard du 30 juin, j'ai entendu ici sur le boulevard du 30 juin un Kinois dire quelle est la séquence qui passe par le boulevard du 30 juin pour arriver chez lui. C'est-à-dire qu'il y avait moyen de prendre des priorités. C'est vrai, on a dit, on a fait quelque chose, mais on a fait quoi? C'est ça qui pose problème.
Et les routes qui sont réhabilitées en province?
Les routes qui sont réhabilitées, c'est combien de routes qui sont réhabilitées? Parce qu'il faut connaître, il faut savoir l'immensité de la tâche. On me dira, il faut commencer quelque part. Mais il y a moyen de faire des priorités et de ne pas en faire des objets de propagande. C'est ça qui tue l'affaire. Pourquoi l'Union pour la Nation, qui n'a fait que son travail, vous voulez que l'opposition fasse quoi? D'ailleurs, moi je me dis que l'opposition a trop attendu. Il fallait que cette sonnette d'alarme soit tirée dès le départ. Hein, la première année, la deuxième année, bon, c'est de bonne guerre aussi, les élections vont arriver, ils commencent à décompter eux aussi. C'est le moment où l'opposition, en faisant son rôle, tire les sonnettes d'alarme, donne les faits. Je ne vais pas revenir sur les faits que Félix a donné. Sur le plan social, nous allons parler des médecins tout à l'heure. Est-ce que vraiment, pour mécaniser les médecins, il faut que ils fassent la grève? Des choses simples. Il semble que la santé fait partie de chantier. Mais est-ce que c'est seulement construire l'hôpital du centenaire? Non, réhabiliter un vieil hôpital du cinquantenaire, c'est ça le chantier. Et les médecins qui travaillent, et les infirmiers qui travaillent.
Il faut commencer quelque part. Hein?
Oui, pourquoi ne pas commencer par l'essentiel, c'est-à-dire l'homme?
Merci Ali Boukassa. Selon Benoît Caméré, l'opposition a agi en retard. Et à votre avis, pourquoi cette opposition a attendu la fin de la législature pour faire cette déclaration?
C'est la question que nous pourrions peut-être poser à l'opposition, mais dans notre état, nous devons voir en cette déclaration une démarche folklorique démocratique, une pratique traditionnelle. Il ne suffit pas d'être de l'opposition de l'IN pour voir la misère des Congolais. Il ne suffit pas de mettre les lunettes pour voir que l'opposition a raison. Parce que les choses ne vont pas bien, les choses vont mal. C'est vrai, l'IN est dans le bon. Elle a son rôle, elle a fait son rôle, et elle y est restée. Bravo à elle. Mais dans l'autre sens, là, il faut aussi le rappeler à nos deux collègues, Félix et Caméré, caractérisé par la présentation en urgence de beaucoup de choses, et pratiquement de beaucoup de choses, de toutes les choses du monde ce soir. Et quand on agit quelque part, tout passe inaperçu. C'est vrai que dans l'entreprise difficile, il faut commencer quelque part, le gouvernement a commencé quelque part, mais là où il faut peut-être dire aussi, c'est que l'on n'a pas su étager les priorités. Il fallait peut-être définir les priorités selon que le tableau des problèmes des Congolais se présente. C'est là que pratiquement le gouvernement aura péché. Mais du reste, je suis optimiste et j'apprécie en même temps la démarche de l'IN. Pourquoi ces années en retard? Je ne crois pas que ce soit en retard. La faiblesse de la démocratie, c'est d'être défendu à la minute. Chaque minute, chaque instant. Et ce que l'IN a fait rentre dans cette optique. Moi, je me dis, est-ce que c'est tard? Parce que là, il faut se rappeler même que l'arc l'avait fait il y a peu, et ça doit être dans le courant du premier semestre de l'année en cours. Et si l'opposition l'IN venait d'enfoncer les coups, je ne trouve pas de mal, retard ou pas retard, quand même, la puce sonnait la cloche.
Merci, Félix Tabouzi. À votre avis, cette évaluation pour avoir quel impact sur la gouvernance en République démocratique du Congo?
Je crois que la première démarche, c'est au gouvernement de tirer les leçons de ces 25 pages. Je suis vraiment content que l'UN se soit engagé à les publier chaque mois, à publier son constat chaque mois de manière à en assurer une large diffusion. Je crois que plutôt que de contester ou de tenir la langue du bois, le gouvernement devrait vraiment analyser ce document et y répondre, parce qu'il y va d'abord de sa propre survie, il y va également de la survie de la population congolaise. Donc je crois que nous devions tous, comme je l'ai dit, comprendre tous les chiffres et tous les faits recensés dans ce document, analyser, voir là où l'UN a raison, à ce moment-là, faire pression également sur le gouvernement pour que ça change. Parce qu'on ne peut pas vraiment du tout comprendre que nous ayons un gouvernement élu qui ne travaille pas, qui ne travaille pas pour le bien des Congolais. Et sincèrement, ça c'est vraiment faire tort finalement même à la démocratie. Où est la différence entre le dictateur Mobutu et le gouvernement élu? Puisque finalement, le gouvernement n'apporte pas, si vous voulez, le changement, n'apporte pas, ne répond pas aux attentes de la population. Donc, c'est au gouvernement, à mon avis, de faire ce qu'il doit faire, ne pas rejeter ces critiques-là pour autant qu'elles soient objectives, et chercher à y répondre. Se cacher derrière le discours de propagande, ça ne servirait absolument à rien.
Et donc, en vérité, l'Union pour la Nation a aussi fait des propositions. Il demande notamment que l'État s'engage dans la dynamique de la bonne gouvernance, et que l'État s'engage aussi dans la lutte contre l'impunité. Et à part cette proposition, qu'est-ce que vous pouvez ajouter?
Bon, moi, je voudrais revenir d'abord sur ce que l'Union pour la Nation a fait. D'ailleurs, vous avez vu l'astuce que l'Union pour la Nation a fait. Il a tourné en dérision pratiquement les déclarations du chef de l'État d'il y a 2 ans et qui sert d'indicatif à un de nos confrères ici. Le pays se porte mieux qu'il y a et eux, ils ont... Et en prenant les périodes, c'est pratiquement la période de l'élection du chef de l'État et la période de l'entrée de l'AFDL et le CPP. C'est des moments, c'est très astucieux de dire que ces gens-là ont pensé. C'est vrai, l'impunité, pour ne prendre que l'exemple qu'il a donné, ce serait un signal fort. Ce serait un signal fort parce que beaucoup, la population congolaise se plaint du fait qu'on parle de tolérance zéro, mais on ne voit pas. On ne voit pas des signes. C'est vrai, on prend les petits Kuluna, on fait même des effets d'annonce. On a dit qu'on allait auditer tel, on allait auditer tel. Après, on ne voit rien. Des gens qui détournent l'argent, des gens qui sont impunis. Les procès, on ne voit pas la suite. On a parlé des magistrats de la génération tolérance zéro. Il y en a qui traînent encore à Kinshasa. On a dit qu'on allait mettre les magistrats dans les bonnes conditions. Ils n'ont même pas les moyens pour rejoindre leur force d'attache. Mais par contre, on voit qu'au Parlement, les gens sont en train de s'engraisser. Au gouvernement, les gens sont payés. Les jeeps continuent à rouler. Et la population, la pauvre population, il n'y a même pas de route à l'intérieur du pays. La nourriture pourrie. Les gens ne sont pas soignés. C'est par ces faits-là qu'on voudrait voir le gouvernement à l'œuvre. Et c'est de bon. Maintenant que les élections arrivent, vous avez constaté que finalement la campagne électorale a commencé avant la lettre. Et l'Union pour la Nation, réponse du berger à la bergère, vous faites la campagne, et voilà ce qui vous attend dans la population. On va vous rappeler, vous avez promis ceci, vous avez promis l'eau, vous avez promis l'électricité, vous avez promis de l'emploi, il y a 85% de chômeurs, vous avez promis ceci, les groupes électrogènes que vous avez laissés, plus rien ne marche, vous avez promis, vous avez promis, vous avez promis, c'est le moment de faire les comptes. Et l'Union pour la Nation n'a fait que son rôle, maintenant que la campagne a commencé sans dire son mot, avec les moyens de l'État, chaque ministre qui va à l'intérieur, en fait, c'est pour faire la campagne électorale. On se demande si c'est avec l'argent de son parti ou l'argent du gouvernement qu'il prend en mission. Mais maintenant, il faut faire les comptes. Et les comptes, l'Union pour la Nation aide le gouvernement à faire le compte en relevant ce qui ne va pas.
Ali Bokassa, à part la bonne gouvernance et la lutte contre l'impunité, quelles sont les autres propositions que vous pouvez faire?
Proposition à faire au gouvernement, c'est lui rappeler les promesses électorales. Et là, il faut rappeler les promesses d'un chantier qui sont devenus aujourd'hui un refrain même ici à Mandito dans les petites bouches des enfants. C'est un chantier, c'est une chanson quand demain on dit même il y a mon congrès non plus de la République. Moi je me dis, Guy, est-ce que le président de la République avec l'ANT, celle-ci n'est pas le poil une épine sur son pied pour les élections en vue? Parce que en Afrique, la démocratie n'est pas encore forte. Et surtout dans notre pays, avec tout ce qui accompagne, un gouvernement de coalition a toujours joué un jeu à la disparate. Est-ce que tous les membres de l'ANP composent pour la réussite de ce chantier? Parce que c'est pratiquement le discours promesse, c'est le discours plan qui devra laver le visage du candidat de l'ANP. Aujourd'hui, je ne sais pas si on aura à renommer cette plateforme qui aura accompagné Joseph Kabila aux prochaines échéances électorales. C'est pratiquement ça, mettre un peu du sérieux, punir. Il ne faut pas que tolérance zéro soit juste un slogan. Il ne faut pas que ce soit pratiquement un générique. Quand on veut passer, on dit tolérance zéro, alors qu'il n'y a même pas tolérance 0,1. Donc c'est un peu ça, c'est rappeler aux animateurs de ce gouvernement que la population est très attentive à ces mouvements et elle l'attend.
Merci, nous abordons notre dernier thème de ce soir, suspension de la grève des médecins du secteur public. Les syndicats nationaux des médecins a décidé de la reprise effective des services. Les médecins des hôpitaux publics suspendent le mouvement des grèves déclenché le 11 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour laisser au gouvernement le temps de matérialiser ses engagements. Selon le secrétaire général du syndicat national des médecins, l'évaluation de cette exécution se fera après la paix du mois de janvier 2011. En cas de non-respect par le gouvernement des engagements pris, les médecins pourront reprendre la grève à tout moment sans préavis. C'est ce qui ressort de la réunion tenue mardi dernier à Kinshasa par le bureau exécutif national du SINAMED qui s'est prononcé après examen des résultats envoyés par les provinces. On écoute le docteur Mankoy au téléphone de Pélé Kipela Mondo.
Après d'âpres négociations avec le gouvernement de la République, nous avons signé un avenant au protocole d'accord du 12 septembre 2009 en date du 29 octobre 2010. Et M. le ministre a signé l'arrêté interministériel se rapportant à la rémunération des médecins. Tous ces documents, nous les avons envoyés en province et les assemblées générales tenues à ce niveau-là nous ont envoyé leurs réponses et nous avions compilé ce jour avant midi. 9 provinces ont opté pour la suspension de la grève. 2 provinces ont voulu maintenir le service minimum. En démocratie, tout le monde s'aligne sur la majorité. Le niveau exécutif national, conformément à la compilation des réponses des conseils provinciaux, déclare que la grève est suspendue sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Donc vous appelez tous les médecins du secteur public à reprendre le travail.
Oui, effectivement.
Félix Kabouzi, je rappelle que vous êtes directeur de publication du journal La Référence Plus, un quotidien qui paraît ici à Kinshasa. Les médecins ne laissent pas la grève, mais la suspende. Comment vous réagissez?
Bon, je crois que c'est, que la grève n'est pas finie, qu'il mette le gouvernement à l'épreuve, n'est-ce pas, de sa bonne foi, parce que c'est un peu comme cela se passe aussi dans l'enseignement primaire et secondaire. À chaque début de la rentrée scolaire, les enseignants rentrent en grève. Bon, le gouvernement fait pression, finalement, au bout de 2, 3, 4 semaines, on leur fait des promesses, lorsqu'ils reprennent les clés, et plus rien ne vient. C'est à peu près de la même manière que le gouvernement voudrait faire aussi avec les médecins, puisque cette grève a commencé en 2009, le gouvernement avait fait des promesses, qui n'a pas tenu, la raison pour laquelle les médecins sont revenus au mois d'octobre à une autre grève. Donc je crois qu'il va falloir vraiment que cette fois-ci le gouvernement prenne ses responsabilités. Ce n'est pas bon d'avoir dans un pays vraiment des médecins, des hommes formés, des hommes qui sont très nécessaires pour la survie de la vie des autres, voir ces gens-là dans une vie de misère, voir ces gens-là recourir chaque fois si vous voulez, à des arrêts de travail pour se faire comprendre. Je crois que là, il y a un sérieux problème de la part du gouvernement. Il n'y a pas seulement le problème de salaire, il y a aussi le problème de mécanisation, comme on a dit. Il y a beaucoup de nouveaux médecins qui sont nommés et qui ne sont même pas mécanisés. on peut se demander vraiment comment il est impossible, il peut être difficile à un gouvernement, lorsque vous connaissez le nombre des médecins, qui n'est même pas nombreux, je crois qu'on parle de plus ou moins 10 000 personnes. Est-ce que c'est vraiment difficile de mécaniser 10 000 médecins, d'ailleurs, qui touchent un salaire de misère? Je crois que là, il y a un vrai problème d'organisation de la part du gouvernement.
Ali Boukassa, je rappelle que vous êtes journaliste de la radio Tutanté, c'est une radio qui est née depuis la ville de Monédite au Kasaï oriental. Et comment se présente la situation à Monédite où vous êtes actuellement? Est-ce que les médecins ont repris effectivement le travail?
Oui, depuis le samedi passé, les grandes structures hospitalières ont réouvert leurs portes. L'on voit déjà que l'ambiance revient à la normale. Et s'il faut placer un mot par rapport au comportement de notre gouvernement, c'est que c'est marrant, même aberrant, parce que, allez-y comprendre, parce que l'AGI a accédé à la liste même des recommandations de quoi, des doléances de quoi, de médecins. Quand vous trouvez 878 médecins, si vous voulez 878 médecins qui travaillent sans salaire ni prime depuis 2009, c'est une immense. Derrière tous ces médecins, il y a des familles. Quand vous ne les payez pas, quand vous ne les primez pas, ça veut dire quoi, Guy? Soyons immenses. On va aller agrandir le fameux serment d'Hippocrate. Est-ce que ce serment n'a pas d'annexe? On ne parle pas de la jouissance du médecin. Le médecin ne doit pas être bien logé, ne doit pas avoir un moyen de transport, ne doit pas être rémunéré. Parce qu'il y a un serment qui dit, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation, il faut mettre au premier plan la vue humaine. Est-ce que c'est ça? Non, nous trouvons que le gouvernement pratiquement doit revoir sa copie de choses.
Merci, Benoît Cambéret. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Le Véco de la région des Grands Lacs. C'est un magazine qui paraît à Kinshasa et distribué ici à Kinshasa et à l'est de la République démocratique du Congo. Que faut-il faire pour, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir ces grèves à répétition?
C'est même qu'une suspension, ça c'est un. Tout simplement que le gouvernement se montre sérieux. On ne peut pas traiter avec des médecins qui ne sont pas n'importe qui et faire des promesses en l'air. C'est la troisième suspension de grève, s'il vous plaît. La troisième, on se met, et le secrétaire général du SINAMED a dit, après discussion. Ces mêmes revendications ont été données il y a 2 ans. Le même gouvernement a dit, bon, écoutez, calmez-vous, et malheureusement, pour arriver à discuter, les médecins doivent aller en grève. Non, soyons sérieux. Des gens sérieux, ils font une promesse, ils la réalisent. On ne va pas, là, on joue avec le temps. Ils ont repris, entre-temps, on va oublier tout, et en janvier, il y aura une autre grève. Ils font être sérieux, tout simplement. Les enseignants, c'est pareil. Les fonctionnaires, c'est pareil. On croit qu'en contentant les secrétaires généraux, eux, qui ont eu leur palier de boutique, les autres, bon, ils vont gréver, la vie ne va pas s'arrêter, les salaires des membres du gouvernement ne vont pas s'arrêter, leur train de vie ne sera donc touché nulle part.
Et comment on peut expliquer le fait que le gouvernement n'arrive pas à réaliser ses promesses dans ce secteur-là?
On peut se poser des questions, parce qu'il réalise des promesses électoralistes. On peut se poser des questions. Ou c'est des gens qui n'ont pas de cœur, ou c'est des gens... Non, mais on peut sincèrement se poser des questions. On ne peut pas se mettre autour d'une table avec des médecins et vous leur dites, non, chers amis, dans 3 mois, on va mécaniser, on va vous donner la prime, on va vous donner... Si on sait qu'on n'a pas d'argent, si on sait qu'on ne va pas réaliser, pourquoi on promet? On peut se poser des questions. Et ça devient cérébral, sincèrement. Il y a ça de demander s'ils ont des cœurs. C'est excellence.
Merci, c'est la fin de cette émission. William Lungamba était à la technique, Alain Rung à la réalisation assistée de Samuel Kachak et Kevin Koufou, sous la supervision de Ben Kabamba, de Vatine Kroguimaté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. I'm going to go to the next one.
Thank you.